ensemble. On va prier ensemble. Père éternel, on veut venir devant toi ce matin pour élever ton saint nom. Pour élever ton nom parce que tu as donné ton Fils pour nous, tu as donné Jésus-Christ. On veut élever le nom de Jésus-Christ parce qu'il est venu marcher parmi les hommes. Dieu le Fils est devenu aussi Jésus de Nazareth. Il s'est fait entièrement homme, a marché parmi les hommes pour venir nous sauver. On veut t'adorer. On veut t'adorer, Esprit Saint, parce que tu es bien là, parmi nous, au milieu de nous. Mais lorsque nous croyons en Jésus-Christ, tu es là en nous aussi, rendant témoignage à nos cœurs, à nos âmes, à notre esprit, que nous sommes bel et bien enfants de Dieu. Père, ce matin, on veut te demander de venir nous enseigner le discernement. Viens nous apprendre, Seigneur, à reconnaître que toute chose dite spirituelle ne vient pas nécessairement de toi. Viens nous apprendre, Seigneur, à avoir du discernement pour demeurer dans la vérité et pour pouvoir partager l'Évangile, la vérité, partager Jésus-Christ au monde qui nous entoure, à nos familles, à nos proches, Seigneur. Viens nous apprendre à avoir le courage, Seigneur, de plonger dans les Écritures pour vraiment connaître ta parole et avoir le courage, Seigneur, de partager cette vérité-là autour de nous, sans gêne, sans honte, dans une société qui voudrait croire que tout ce qui semble bon est nécessairement vrai, Seigneur. Apprends-nous à avoir ce courage-là ce matin. Viens nous parler, chacun d'entre nous, à travers ta parole. C'est dans le nom de Jésus-Christ qu'on te le demande. Amen. On va écouter ensemble la parole de Dieu.
Alors ce matin, on va lire dans le premier épître de Jean, au chapitre 4, du verset 1 à 6. Et je vais vous lire dans la nouvelle édition Genève. 1 Jean, chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur.
Merci Stéphane. Imaginez un instant que vous êtes malade, des choses qui arrivent, n'est-ce pas? Vous êtes malade, vous allez voir le doc, le médecin vous prescrit, donne une prescription des médicaments, vous rendez à la pharmacie, vous présentez à la pharmacie, vous n'allez pas à votre pharmacie habituelle. Vous allez à une pharmacie quelconque, parce que bon, peut-être c'est à côté de la clinique, je ne sais pas. Vous allez à la pharmacie, enfin, puis... le monsieur qui se présente au comptoir, ça aurait pu une dame, mais dans mon illustration, ça va être un monsieur, il se présente avec son sarrau blanc. Sarrau blanc, pharmacien, vous dites, il n'y a pas de problème, c'est safe. Vous donnez la petite prescription, ça va vous préparer vos médicaments. Mais il s'avère que finalement, ce gars-là, c'est un fraudeur, pas un pharmacien. Puis, il est là. Fait qu'il s'en va devant les pilules, puis il regarde ça, puis il dit... Eeny, meeny, my, jimo. C'est bon. Prends ça, vous imprimez une petite étiquette, colle ça sur votre petite bouteille, vous donne la petite bouteille. Voilà mon petit monsieur, ma petite madame, vous nous en donnerez des nouvelles. Un peu freakant, hein? Je sais pas si vous avez attrapé la nouvelle dans le journal de Montréal au début du mois de juin. Non? Un pharmacien qui a été accusé par l'Ordre des pharmaciens du Québec. En fait, le plus grand propriétaire de pharmacie au Québec. Voici, je vous lis ça très rapidement, ce qui était écrit dans le journal de Montréal le 6 juin. Coup de tonnerre dans le milieu de la pharmacie. L'Ordre des pharmaciens demande que le plus grand propriétaire de pharmacie du Québec soit radié dès cette semaine. C'est l'Ordre des pharmaciens, là. Le syndic lui reproche, entre autres, l'usage immodéré de substances psychotropes et une fraude pour l'obtention de son permis de pratique. Ça, c'est la réalité, d'accord? Bon, on verra si les accusations sont justifiées. J'ai absolument rien contre les pharmaciens. L'Ordre a fait son travail ici. Et le monsieur a quand même eu le temps d'être le plus grand propriétaire de pharmacie au Québec. Ça fait peur un petit peu. Comment tu fais pour avoir du discernement? Comment tu fais pour savoir si tu peux faire... Le gars, il a un sarrau, il est là, puis il est dans Baptiste, puis tout le monde semble le connaître. Fait que, tu sais, comment tu fais pour discerner? Moi, j'ai pas la science infuse, j'ai pas toute la connaissance du monde. Voyez-vous, la société est organisée autour de spécialistes, puis il y a des ordres, puis tu dois faire confiance à quelque part. Je peux pas savoir toutes ces choses-là. Je peux pas vraiment user de discernement dans cette situation-là, à moins de commencer à chaque fois que je fais appel au service d'un professionnel. Je monte dans l'autobus, je demande au chauffeur l'autobus, je veux ton permis de conduire, s'il te plaît, autrement, j'embarque pas dans l'autobus. Je fasse confiance. Quand j'arrive dans la lettre de Jean, l'apôtre Jean nous dit que si nous connaissons Jésus-Christ, si nous avons cru en Jésus-Christ, si nous sommes devenus enfants de Dieu, un discernement nous a été donné. Je ne suis peut-être pas un pharmacien, je ne suis peut-être pas un médecin. Il y a des domaines où il faut que je fasse confiance au système à quelque part. Mais dans le domaine de la foi, Jean me dit que si j'ai cru en Jésus-Christ, son esprit m'a été donné et un discernement m'a été donné afin que j'en fasse usage pour mon bien, pour ceux de ma famille et pour mes proches autour de moi. On va voir ensemble que ce matin, l'apôtre Jean nous dit « Ayez du discernement, ne soyez pas naïfs, mais au contraire, soyez sceptiques pour garder la foi. » Ne soyez pas naïfs, soyez sceptiques pour garder la foi. Alors premièrement, pour avoir du discernement, il faut que je fasse un choix. Je dois prendre une décision de reconnaître qu'il y a des choses qui sont fausses qui sont enseignées sur la foi. C'est contre-culturel, ça ne fonctionne pas avec notre époque. J'ai bien aimé comment Kevin DeYoung l'a formulé. Il faut que j'accepte d'avoir une catégorie dans mon esprit pour des faux enseignements, pour des faux prophètes et pour des faux docteurs. Autrement, je ne pourrais pas avoir de discernement. Je vais croire que tout ce qui s'appelle spirituel est vrai et juste et bon. Regardez ce que Jean dit dans 1 Jean 4:1. Vous pouvez regarder avec moi le verset 1, s'il vous plaît. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ne soyez pas naïfs, reconnaissez qu'il y a de faux enseignements et de faux prophètes. Là, je vais dire quelque chose qui va sembler bizarre pour quelqu'un qui n'est pas chrétien et qui est en train d'un peu découvrir le christianisme. Être chrétien et avoir du discernement, c'est deux synonymes. Ne pas être naïf et être chrétien, c'est deux synonymes. J'entends déjà des amis à moi me dire, « Attends un petit peu, Yannick, là. C'est parce que tu crois en Dieu, premièrement. OK, peut-être. Mais Dieu a envoyé son Fils. OK, il s'est incarné. C'est comme un extraterrestre qui est venu parmi les hommes. Puis là, il est mort sur la croix. Puis après ça, le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Mais vous n'êtes pas naïfs, vous autres. Vous avez du discernement. Intéressant. Eh oui, la foi chrétienne est une foi qui s'instruit. C'est la foi. C'est la foi, mais c'est une foi qui s'instruit, c'est une foi qui explore, qui pose des questions, qui veut connaître le fondement de sa foi, qui veut connaître les causes de sa foi. Souvent, les gens autour de nous ne réalisent pas qu'eux-mêmes ont un système de croyance, ils sont plus ou moins conscients de ça, puis ils questionnent le fait que nous, on a la foi, puis ils vont dire « Non, non, moi je ne crois pas, moi je fonctionne simplement par la connaissance. » Je ne sais pas si vous avez attrapé ça, c'est vraiment juste une parenthèse que je fais, mais je ne sais pas si vous avez attrapé, il y a quelque temps sur le web, ça a circulé, Elon Musk, le fondateur de Tesla. Vous connaissez les voitures Tesla, les voitures électriques? Elon Musk, c'est un génie, c'est un gars super brillant, de l'entrepreneurship, mais de la recherche, puis un paquet d'affaires. C'est lui qui a développé, c'est le fondateur de SpaceX aussi, puis de Solar City. Plein de trucs, en tout cas, un gars vraiment intéressant à suivre, puis à écouter. Et il a fait une sortie il n'y a pas si longtemps, il était en entrevue, tout ça, puis... Elon Musk est un gars super rationnel en principe, puis super brillant, puis tout le kit. Il a émis l'hypothèse suivante. Il a dit, lorsque je considère ce que, avec notre petite intelligence à nous, vous le chercherez sur le web, là, il s'exprime beaucoup mieux, sa pensée que moi-même. Mais je vais essayer de le résumer comme ça. Il dit, considérant notre petite intelligence et la vitesse à laquelle on développe les technologies, considérant où on va être avec la réalité virtuelle dans 5-10 ans d'ici, c'est très probable d'imaginer que nous-mêmes, on est une réalité virtuelle qui a été conçue par une intelligence supérieure. Bon. Intéressant, hein? C'est un gars rationnel. Aujourd'hui, j'ai attrapé une autre citation qui disait que, dans le fond, la physique, c'est quoi? C'est notre humble étude et analyse qui nous permet de commencer à décoder le code qui a encodé tout l'univers. Ah, intéressant. Des fois, tu les entends dire avec d'autres langages, des choses comme « il y a un créateur à quelque part qui a créé l'univers ». Mais on est des grands naïfs, on croit en Dieu. Je comprends ça. Soyez sceptiques pour garder la foi. Soyez sceptiques pour ne pas perdre la foi. Comme chrétien, je dois accepter l'idée que tout ce qui se dit spirituel ne vient pas de Dieu. Je trouve que c'est important d'entendre ce que Jean est en train de dire ici pour notre époque, pour notre culture et pour les jeunes particulièrement, parce que ce n'est pas tendance que Jean est en train de dire ici. Ça demande d'affirmer que je peux discerner ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est pas à la mode, ça. Là. On est à l'époque où, du moment que c'est fait avec bon cœur, c'est certain que c'est vrai, surtout dans ce qui relève de la spiritualité, de la foi, d'accord? Les gens aujourd'hui se disent, on peut pas avoir aucune certitude sur Dieu, on peut pas avoir aucune certitude sur la connaissance de Dieu. Donc, du moment que c'est fait avec bon cœur, ça doit être vrai, puis on y va dans ce sens-là. On peut pas avoir de conviction. Donc, il faudrait tout accepter. Et malheureusement, dans une certaine mesure, les chrétiens vont adopter cela. Jean dit ici, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » On a déjà vu qu'il s'agissait de gens qui avaient quitté le christianisme. Dans 1 Jean, on a déjà vu ça. Ils sont sortis du milieu de nous parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Ils sont allés enseigner une autre doctrine. Donc, ce sont des gens qui disent émerger du christianisme avec une nouvelle prophétie, un nouveau enseignement. Puis Jean dit, ce ne sont pas tous ceux qui sortent du christianisme qui sont en train de parler par l'Esprit de Dieu. Il y a des faux prophètes. Tout ce qui se dit chrétien n'est pas chrétien. Ça aurait été simple si au moment où le mot christianisme a été comme identifié, on avait pu vraiment le brander puis le protéger de toute copie. Mais écoutez, on vit à une époque où tout se copie. Tu fais n'importe quoi, tu le laisses sur le web, 5 minutes après, c'est copié. C'est copié. Mais c'est ça. C'est ça qui se fait depuis 2000 ans. Il y a des copies non originales, fausses, du christianisme. Et des fois, elles sont grosses comme ça, elles sont faciles à discerner. C'est des affaires tellement grosses qui contredisent les Écritures de manière tellement flagrante que c'est facile à voir. D'autres fois, c'est plus subtil. Jean est en train de me dire ici, ne prêtez pas foi à tout ce qui se dit chrétien. Ça ne veut pas dire que ça l'est. Ça ne veut pas dire que c'est biblique. Ça ne veut pas dire que c'est conforme aux Écritures. Vous devez user de discernement. Soyez pas naïfs. Croyez, mais avec du discernement, parce que si vous êtes juste des naïfs et que vous n'êtes jamais sceptique, vous pourriez perdre la foi, vous pourriez vous égarer par rapport à la foi et être emporté par des fausses doctrines, par des faux enseignements. Tout ce qui est beau et gentil ne vient pas de Dieu. Puis la valeur la plus promue dans notre société, c'est l'amour-tolérance. J'en parle souvent, hein? Qui est une espèce d'amour sans discernement. Il faut tout accueillir, tout accepter. Au point que si tu n'es pas accueillant puis si tu n'acceptes pas, ben finalement, tu n'aimes pas. Tu ne sais pas c'est quoi aimer. Et ça fait partie aussi des églises chrétiennes. C'est là aussi dans le christianisme. Et c'est vrai qu'il faut faire attention puis il faut manifester de l'amour. Puis c'est vrai qu'il ne faut pas passer son temps à juger puis à descendre des gens. C'est vrai, ça. Ça n'enlève pas le fait. Il faut faire preuve de discernement. Il faut discerner ce qui est conforme aux Écritures. Et ne pas être naïf. John Stott, un grand prédicateur de la parole, a écrit ceci. « Il y a un urgent besoin de discernement parmi les chrétiens. Nous sommes souvent trop crédules et faisons preuve d'une naïve disposition à croire des messages et des enseignements qui montrent qu'ils viennent de l'esprit du monde. C'est en quelque sorte de la charité mal placée et une tolérance envers les fausses doctrines. » Si vous voulez avoir du discernement, vous allez devoir avoir une catégorie dans votre esprit pour les faux enseignements, les faux docteurs, les faux prophètes. Si vous refusez d'avoir cette catégorie-là parce que vous dites « c'est pas ça l'amour », vous mettez en péril votre propre foi et ceux qui vous entourent, ceux à qui vous devriez annoncer la vérité de l'Évangile. Vous devez avoir une catégorie pour les faux enseignements, les faux docteurs, les faux prophètes. Si Jean veut qu'on ait du discernement, deuxièmement, parce que des gens ne reconnaissent pas les éléments fondamentaux de la personne de Jésus-Christ, comment est-ce qu'on va faire ça pour avoir ce discernement-là? Ce passage-là, les premières fois que je le lisais, quand j'étais jeune dans ma foi, il me troublait un peu. Il faut commencer à discerner les esprits. Comment est-ce qu'on va discerner les esprits? Comment est-ce qu'on va éprouver les enseignements sur le Seigneur? Le discernement des esprits ne se fait pas avec une table Ouija. Vous savez c'est quoi une table Ouija? Vous avez déjà vu ça, des affaires de spiritisme où tu fermes les yeux puis tu commences à consulter les esprits puis ils vont te dire, ils vont te faire bouger ce qui est au centre de la table puis là avec ça tu vas avoir des lettres puis tu vas trouver des réponses. On va faire le discernement des esprits en consultant les esprits. Ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus simple que ça. C'est beaucoup plus clair que ça. C'est beaucoup plus sécuritaire que ça. Le discernement des esprits ne se fait pas avec une table Ouija mais avec une confession de foi. Avec une confession de foi. C'est super important. Quand on lit « Éprouver les esprits », ça peut avoir de l'air mystique, ça peut avoir de l'air de quelque chose d'étrange. Il y a des gens dans l'Église qui ont du discernement. Puis il y en a qui n'ont pas de discernement. Puis ceux qui ont du discernement, quand ils se mettent à parler, tu ne comprends rien. Parce qu'eux autres, ils ont du discernement. Mais les autres ne peuvent pas comprendre parce qu'eux, ils ont du discernement. Ça n'a rien à voir avec un don de discernement. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est beaucoup plus simple que ça. Comment tu fais pour savoir si une personne, un prophète, quelqu'un qui apporte des idées et l'esprit qui l'anime vient de Dieu, enseigne la vérité? Tu regardes son message. Tu écoutes son message, tu examines son message. Je ne sais pas si vous êtes familier avec toute la tradition chrétienne des confessions de foi. Très, très tôt dans l'histoire de l'Église, l'Église chrétienne a eu des confessions de foi, des credos. Je pense qu'on avait quelques images de confessions de foi. Qu'est-ce que c'est une confession de foi? On dit à quoi ça sert? T'sais, on a la Bible, on n'a pas besoin d'une confession de foi. Oui, mais en même temps, par exemple, l'apôtre Pierre va dire très, très tôt, il nous le dit dans une de ses lettres, il dit « Certains vont prendre les enseignements de Paul puis ils vont les tordre, ils vont leur faire dire des choses que Paul ne voulait pas dire parce que Paul enseignait des choses qui sont difficiles à comprendre. » Alors, très tôt, aussitôt que le credo des apôtres, on trouve des documents où les chrétiens faisaient une synthèse de leur compréhension de ce que la Bible enseignait sur des sujets essentiels. On ne fait pas des confessions de foi sur toutes les questions qui sont traitées dans la Bible. Parce qu'il y a bien des questions qui sont complexes, difficiles, et on ne va pas en faire un sujet de division entre les chrétiens. C'est plutôt un sujet de conviction personnelle. Ce sont des sujets intéressants à étudier, mais qui ne doivent pas nous diviser. Mais en même temps, il y a certaines et plusieurs grandes questions dans les Écritures qui vont déterminer mon salut, ma communion avec Dieu, ma connaissance de Dieu, mon éternité, ma marche dans la sainteté, mon discernement fondamental essentiel. Souvent, on les appelait les doctrines essentielles. Et les chrétiens, depuis toujours, font des synthèses, un résumé de leur compréhension. L'Église, ici, a une confession de foi. Le jour où tu pars d'ici, puis Dieu te conduit à aller ailleurs, puis tu cherches à aller dans une bonne Église, commence par demander sa confession de foi. Si cette Église-là te dit « Ah, nous autres, on n'a pas de confession de foi », j'ose le dire, sauve-toi en courant, s'il te plaît. Sauve-toi en courant, parce que ça veut dire que tout le monde dans l'Église a la vérité, puis tout le monde a le droit de dire absolument n'importe quoi sur la Bible. Ou bien, c'est juste le gars en avant qui a l'absolue vérité, il faut juste que tu t'assures de comprendre qu'est-ce qu'il enseigne, puis être d'accord avec lui. Parce qu'ils ne sont pas capables de s'entendre ensemble, puis résumé sur une page. En somme, qu'est-ce qu'on croit ici? Qu'est-ce qu'on a reconnu à travers l'histoire de l'Église que les chrétiens enseignent? Les confessions de foi sont super importantes. Puis là, vous dites, oui, mais pourquoi on en a plein de confessions de foi? Parce que les confessions de foi ne sont pas permanentes. Ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu qui ne change pas est ici. C'est tout, c'est la Bible. Après ça, à chaque époque, survient des grandes questions. On a des questions sociales actuellement qui, d'une manière ou d'une autre, vont se retrouver reflétées dans les confessions de foi qui vont être écrites ces jours-ci. En Occident, parce qu'on sent le besoin, la nécessité de venir statuer exactement ce que les Écritures enseignent sur des questions, des fois, qui n'étaient pas nécessairement abordées, parce que ce n'étaient pas des enjeux sociaux aussi évidents à l'époque. Puis ils deviennent évidents dans une autre culture, à une autre époque. Mais on va réécrire aussi des confessions de foi parce qu'on doit s'adresser aux gens de notre époque. La semaine dernière, j'ai fait exprès, j'ai utilisé le terme théologal, les vertus théologales. Trouvez-vous digeste ce mot-là? Est-tu comme cool? Vous mettez ça dans vos quotes Facebook ou sur Twitter. Eh bien, ce matin, j'ai étudié une vertu théologale. Ne mettrez pas cela, vous comprenez? Non, la société change, la culture change, le langage change, évolue, il se transforme pour le meilleur et pour le pire des fois. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'on est en train de parler à notre époque, à l'Église de notre époque, et on va réécrire des confessions de foi en étudiant les confessions de foi passées pour voir ce que les chrétiens ont compris des Écritures et ne pas nous éloigner de ce que l'Église a compris à travers les anges. Ce sont les confessions de foi. Dans le verset 2, par exemple, Jean nous donne une mini-confession de foi. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus, le Christ, le Sauveur, le Messie, Christos, Jésus le Sauveur, venu en chair, qui est de Dieu. Jésus, un homme, qui était auprès de Dieu, qui a vécu parmi les hommes en chair, vraiment homme, qui est le Sauveur, le seul Sauveur, et vient de Dieu. Si tu ne peux pas dire tout ça sur Jésus, tu ne crois pas dans le même Jésus que Jean. J'ai déjà une mini-confession de foi. C'est pas tout ce que Jean dit sur Jésus dans sa lettre même. Il dit encore plein d'autres choses sur Jésus. Mais ici, j'ai une mini-confession de foi. Alors, ce que Jean me dit ici, lorsque je veux discerner, au verset 2, il me le dit clairement, « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui se déclare publiquement. » Vous rencontrez quelqu'un, puis vous dites, « Hey, j'ai découvert des affaires, c'est génial, tu devrais voir ça, cette église-là est super, il enseigne telle affaire, je suis tombé sur tel livre, c'est absolument génial. » Résume-moi donc qu'est-ce que ça enseigne. « Ah, tu sais, c'est super riche. » Non, résume-moi ce que ça enseigne. « Ah! » Bon, OK, c'est peut-être pas bon pour moi. Résume-moi ce que ça enseigne. Ça enseigne ça. OK, c'est bon, j'ai une synthèse, je peux aller voir les Écritures, je peux aller voir. Je peux aller discerner si c'est conforme aux Écritures. Hey, j'ai découvert une nouvelle église, ils sont super trendy, ils sont tellement hot, man, ça, écoute, ils sont en train de percer, c'est génial. En quoi ils croient? Dis-moi en quoi ils croient. Parce que j'en connais beaucoup d'églises, là. Il y en a plein, plein, plein. C'est pas brandé. C'est pas brandé, le christianisme. Il y en a plein. Vous comprenez, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être méfiant et qu'il faut juger toutes les églises qu'on rencontre. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il faut avoir une catégorie où on peut s'asseoir ensemble et dire, « Dis-moi ce que tu crois sur Dieu. Parle-moi du Dieu trinitaire. Parle-moi de la divinité de Christ. Parle-moi de Jésus-Christ. Explique-moi le salut. Parle-moi de la Bible. Dis-moi, c'est quoi la Bible pour toi? » Ah, la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais encore, est-ce qu'il y a d'autres livres qui sont la parole de Dieu? Dans quel sens est-elle la parole de Dieu? Confession de foi résume, répond à ces questions-là qui sont des questions essentielles de la foi. Et comment est-ce que je vais discerner? Je vais le discerner en examinant leur confession de foi. Si je reviens spécifiquement au sujet de Jean ici, parce que c'était sur la personne de Jésus-Christ que certains avaient dérapé par rapport à la foi et avaient commencé à enseigner toutes sortes de choses qui ne venaient pas de l'Esprit de Dieu. Jean est en train de dire que comprendre qui est Jésus-Christ est fondamental. Il y a juste, vous résumer, quatre grandes erreurs par rapport à Jésus-Christ qui se sont développées au cours du 2e, 3e, 4e siècle. D'accord? Je vais juste les survoler rapidement. Si vous êtes curieux, allez lire là-dessus. C'est intéressant parce qu'elles ont tous des variantes de ça qu'on retrouve aujourd'hui. Plus ça change, plus c'est pareil. On les retrouve toutes d'une manière ou d'une autre aujourd'hui. Alors, 4e siècle, l'arianisme, Arius de son petit nom. Si vous voulez donner un nom pour votre enfant, c'est peut-être pas le meilleur, là, étant donné que c'était un grand hérétique. Jésus n'est pas entièrement Dieu. Jésus n'est pas entièrement Dieu. Il est près de Dieu, mais il n'est pas vraiment Dieu, le Fils. Ça serait too much de dire ça. C'est l'arianisme au 4e siècle. Le docétisme, et celui-là ne s'appelait pas docète, d'accord? Fin du 4e siècle, Christ semblait humain, mais il n'était pas vraiment humain. C'est juste comme le contraire de l'autre. Nestorianisme niait l'union des deux natures de Christ. Donc, on dit, l'Église a toujours reconnu que Jésus le Christ, c'est bien Dieu le Fils, entièrement homme, entièrement Dieu. C'est mystérieux pour nous. Comment les deux natures de Jésus-Christ, sa nature humaine et sa nature divine, se réconcilient, cohabitent pour former une seule personne, il y a une part de mystère. Il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à lire. C'est vraiment quelque chose d'intéressant à étudier. Mais il y a un moment, comme disait C.J. Mahoney, quand tu étudies en théologie, tu réalises à un certain moment donné que tu es en train d'avancer dans l'océan. Je l'ai dit à quelques reprises, ça. Tu es en train d'avancer dans l'océan, puis vous comprenez que si je fais un prochain pas, mais ça va être drôle. Mais ça peut être vraiment pas drôle. Si je m'en vais trop loin, je m'aventure trop loin dans des choses qui sont mystérieuses dans les Écritures, à un certain moment donné, l'humilité de ma finitude comme être humain, le fait que je suis limité, la révélation ne donne pas toutes les réponses, je vais faire juste un pas en arrière. Je vais dire, OK, là, je suis solidement ancré dans la parole de Dieu, pas de problème. Je reste là. Et je contemple la gloire de Jésus-Christ. Je contemple la gloire de Dieu. Enfin, une quatrième, monophysisme ou les monophysites, confusion des deux natures, mais la nature divine du Christ aurait absorbé sa nature humaine. C'est comme si l'homme aurait été déifié à travers le processus. Vous pouvez trouver des sectes qui enseignent ça actuellement. L'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens 15, écoutez ceci, c'est un petit peu long, mais vous allez voir l'importance en même temps. S'il n'y a point de résurrection des morts, parce qu'on n'est pas en train de couper les cheveux en quatre, on n'est pas en train de picosser sur des choses. On devrait dire, garde, il dit Jésus, puis je dis Jésus. Tu peux-tu arrêter de taponner, Johnny? L'apôtre Paul dit, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, parce que les apôtres affirmaient cela. Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Le pardon n'est pas entier, n'est pas réel. C'est en vertu du sacrifice agréé par Dieu qu'il a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Vos péchés ne peuvent pas être réellement pardonnés s'il n'est pas réellement ressuscité parce que le sacrifice n'était pas réel. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si je résumais ce que Jean enseigne dans sa lettre sur Jésus-Christ, ce qu'on a vu jusqu'à présent, et ce n'est pas terminé encore, voici des choses qui ont été dites. Le Fils de Dieu est devenu un vrai homme incarné. Dieu le Fils s'est fait homme, vrai homme. Ce Jésus est le sauveur des hommes et il est le seul sauveur des hommes. Et il est le Fils de Dieu. Il est lui-même la vie éternelle. Non seulement il nous donne la vie, mais il est la vie éternelle. Et celui qui croit en lui a la vie éternelle. Je n'ai pas besoin de croire dans rien d'autre pour régler la question de mon éternité. Il était auprès de Dieu le Père avant de devenir aussi un vrai homme. Ce n'est pas simplement un homme qui a atteint la science, la connaissance parfaite, puis qui nous guide sur la voie de la connaissance parfaite. Il était auprès de Dieu le Père avant de devenir homme. Aujourd'hui, il est auprès du Père et il intercède pour nous auprès du Père. Et on n'a pas terminé avec la lettre de 1 Jean. Alors, quelques conseils pratiques pour développer du discernement. Rapidement, quelques conseils pratiques. Lis ta Bible d'un couvert à l'autre régulièrement. Lis ta Bible. Fais juste lire les Écritures. Lis les Écritures. Apprends à comprendre les Écritures. Je sais que c'est gros. Les premières fois que tu attaques la Bible, tu dis l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les livres, c'est quoi ces affaires-là? Là, il y a des genres littéraires là-dedans. Il y a des livres prophétiques. Il y a de la poésie. Il y a des livres d'histoire. Il y a des évangiles qui est une espèce de comme d'écrit politique. On prend l'histoire, mais on veut communiquer un message aussi à travers ça. Il y a toutes sortes de genres. Il y a toutes sortes d'époques. Il y a toutes sortes de cultures. Il y a toutes sortes de pays même où c'est rédigé. Des fois, ils sont en déportation. C'est complexe. Lis les Écritures. Lis les Écritures. Lis un livre à côté pour comprendre les Écritures et puis juste te démêler dans ça. Investis-toi un peu dans l'exposé biblique du dimanche matin. Au moins 60% des enseignements qu'on apporte ici dans l'Église exposent des livres des Écritures. On prend un livre et on le couvre, parfois très, très près du texte, parfois beaucoup plus haut, en haute voltige, vraiment, on va survoler un livre. Mais au moins 60%, on est en train d'exposer des livres bibliques. Investis-toi, lis les passages à l'avance, continue à les méditer, discute-les avec des amis, va en retirer des choses. Profite des cours bibliques pour adultes. Les cours vont recommencer en septembre. Honnêtement, on a des très bons cours. Tu fréquentes l'Assemblée pendant 5 ans, 10 ans, tu prends juste la discipline de lire la Bible, de lire le texte qui va être exposé le dimanche et de venir au cours biblique le dimanche matin. Fais ça pendant 5, 10 ans. Le bagage de discernement qui va s'installer dans ta pensée, dans ton cœur, c'est absolument énorme, c'est très profitable. Lis un bon livre chrétien. Comment tu sais que c'est un bon livre chrétien? Ça, c'est important. Mais il t'a été bien recommandé. Pas tous les livres chrétiens qui se disent chrétiens qui le sont ou qui se sont de bons livres chrétiens. Il t'a été bien recommandé. Apprends à faire, celle-là est importante pour certaines personnes, d'accord? Apprends à faire la distinction entre les doctrines essentielles et les sujets difficiles dans la Bible qui ne sont pas essentiels et qui ne devraient pas faire l'objet de débats sans fin entre chrétiens. On les étudie avec joie, mais on n'en fait pas un objet de division, d'accord? Ça, c'est important. Là, je m'adresse à ceux qui, c'est des maniaques de doctrine. Vous pouvez être une énorme bénédiction pour l'Église. Par votre amour de la parole, vous aimez vraiment aller étudier tout ça. Vous pouvez être une énorme bénédiction pour l'Église et vous pouvez être une pierre d'achoppement. Ça dépend si vous prenez ce talent, ce don-là, cette passion-là et que vous en faites usage avec humilité ou avec orgueil. Si vous le faites avec orgueil, vous êtes des docteurs de la parole, vous avez du discernement, vous aimez engager des combats de haute voltige, où vous savez débattre jusqu'à écœurer tout le monde autour de vous à parler de théologie. Parce que vous avez du discernement. Et littéralement, vous allez décourager des gens d'étudier la parole. C'est ça que vous allez faire. C'est triste, c'est vraiment triste. Mais vous pouvez être une bénédiction. Si au contraire, vous aidez les gens à dire, est-ce que tu as vu que tu pourrais aller un petit peu plus loin dans le passage? Il y a encore des perles, il y a encore des trésors. Puis laisse-moi te voir en quoi ça édifie ma foi, ça. C'est pas juste pour mon cerveau. C'est pour mon cerveau parce que ça nourrit mon cœur, mon âme puis mes actions. Et de grâce, soyez des bons pratiquants de la parole si Dieu vous a accordé d'être des bons étudiants de la parole. Si votre témoignage de vie ressemble plus à du pharisianisme qu'à une vie chrétienne vraiment remplie d'amour, ça donne vraiment le sentiment que c'est ça que ça donne d'étudier les Écritures. Mais vous pouvez vraiment être une grande bénédiction dans l'Église si vous le faites avec humilité. Quelques conseils pratiques. Et enfin, dernièrement, qu'est-ce que Jean nous enseigne? C'est que celui qui a cru en Jésus-Christ a reçu ce discernement-là. Il l'a reçu en lui-même. 1 Jean 4:4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Je vais adresser ce passage-là parce que, encore une fois, c'est contre-culturel, ça peut sembler énormément prétentieux. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tous les chrétiens ont reçu l'Esprit de Dieu et tous sont appelés à avoir du discernement. On n'est pas tous des pharmaciens et on doit faire confiance à l'ordre des pharmaciens. Mais si vous êtes chrétien, bien, ça veut dire que vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Et son Esprit vous apprend à aimer la parole, à aimer la saine doctrine, parce que nous ne croyons pas simplement avec nos sentiments, mais premièrement avec une connaissance de Dieu qui nous est donnée par la parole, que l'Esprit vient appliquer dans nos cœurs et qui vient nous transformer. Et si vous êtes chrétien, vous avez reçu l'Esprit de Dieu pour avoir du discernement. C'était un des éléments importants de la grande réforme protestante du 15e, du 16e siècle, d'accord? Que de croire que tous les chrétiens ont reçu l'Esprit Saint. C'est une des croyances, pour prendre le terme populaire, des évangéliques baptistes. Nous croyons dans le sacerdoce universel des saints. Moi, je ne suis pas le curé qui a un monopole sur l'Esprit Saint. Vous avez l'Esprit Saint, vous avez la parole et vous devez grandir dans votre discernement. Et en partant, quand vous vous convertissez, l'Esprit est déjà là en vous pour vous donner du discernement. Et donc, vous êtes appelé à grandir et à exercer ce discernement-là. Jean va jusqu'à nous dire qu'on n'a pas à avoir peur parce que cet esprit qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est en train de parler de l'Esprit Saint, qu'il a vaincu le monde. Jésus, avant même qu'il soit crucifié, a dit à ses disciples, « Ne craignez pas, parce que j'ai vaincu le monde. » Il n'est pas en train de dire qu'il a fist-fighté, il s'est battu avec tout le monde. Il a vaincu l'esprit du monde qui croit dans beaucoup d'erreurs, dans beaucoup de mensonges. Et c'est l'Esprit de Christ qui habite en nous, qui nous donne du discernement. Et on n'a pas à craindre. L'apôtre Paul dit à Timothée, à son cher Timothée, son fils dans la foi, « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Jean va jusqu'à dire que celui qui connaît Dieu croit dans le message qu'ils ont apporté. Je pense que c'est le passage qui est peut-être le plus contre-culturel, la partie qui est la plus contre-culturelle. Verset 6, « Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. » Ça peut avoir l'air tellement prétentieux comme déclaration. Mais vous devez vous rappeler comment a commencé cette lettre-là. 1 Jean 1:1. Ce qui était au commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Les apôtres ont connu personnellement Jésus-Christ. Ils ont reçu de lui la révélation de sa personne. Ils l'ont vu faire des miracles. Ils l'ont connu avant sa mort, avant son arrestation et sa mort. Ils ont cru en lui, ils ont douté de lui, puis ils l'ont connu après sa résurrection. Et là, ils ont compris vraiment, par la puissance de l'Esprit qui leur a été donnée quelque temps après, vraiment qui est Jésus-Christ. Et cette foi-là qu'ils ont reçue ne repose pas sur de la philosophie, sur un petit comité qui s'est dit hey, « on pourrait trouver quelque chose de trendy, on va brander ça, ça va s'appeler le christianisme, on va bouleverser l'Empire romain ». Non, ces gars-là, ces femmes-là sont morts pour la majorité d'entre eux au nom de la foi. Ils étaient massacrés. Je vous ai parlé récemment de Blandine. Ces gens-là étaient zigouillés à cause de la foi. Ils n'avaient aucun bénéfice terrestre pour ça. Et pourtant, ils ont bouleversé l'Empire romain avec cette doctrine, cet enseignement qui est une personne Jésus-Christ. Et donc, Jean vient à dire, ceux qui sont de Dieu vont recevoir cet enseignement-là, pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais parce qu'il est conforme à ce que Jésus nous a enseigné. Vous devez vous réconcilier, vous, comme chrétien, aujourd'hui, en 2016, au Québec, avec cette idée-là. Si votre foi est conforme à la foi des apôtres, si votre foi repose sur les saintes Écritures, pas sur ce que vous aimeriez croire sur Dieu, puis il y a des choses qui sont difficiles à accepter dans les Écritures, mais je crois dans ce que la parole de Dieu me révèle sur Dieu. Je dois avoir le courage aussi de dire, ceux que Dieu va appeler vont recevoir cet enseignement-là. Ceux qui vont s'opposer à cet enseignement-là enseignent l'erreur, et ce sont de faux prophètes s'ils prétendent que ça vient de Dieu. Ce sont de faux docteurs s'ils prétendent que ça vient de Dieu. Et vous devez avoir le courage de faire ça pour la sécurité de votre salut à vous, pour la sécurité éternelle de vos enfants, de nos enfants, pour le salut des gens autour de nous. Il faut accepter que les gens autour de nous vont dire « Vous êtes des prétentieux et vous êtes des naïfs parce que vous croyez dans des affaires farfelues. » Le chrétien est quelqu'un qui croit avec discernement parce qu'il sait dans quoi il croit. Il sait que ce qu'il croit repose dans la révélation qui a été donnée aux apôtres, qui a été transmise à travers l'histoire. Le chrétien a reçu l'Esprit de Dieu et par la parole de Dieu apprend à discerner la vérité du mensonge. Je vous encourage à assumer cela, à le faire avec humilité, sans prétention, sans avoir de l'air des petits brous qui prétendent être meilleurs que les autres. La société est organisée, toute la société est organisée autour de spécialistes, des médecins qui ont une formation, puis ils sont accrédités, puis en général, ils font un bon travail. Puis après ça, il y a des psychologues, puis après ça, il va y avoir des mécaniciens, puis après ça, il va y avoir des ingénieurs qui construisent des ponts. Il faut les checker des fois. Il y a l'ordre, tu sais. Hop, si l'ordre ne fait pas son travail, il y a quelqu'un d'autre qui va les vérifier. Mais chacun a son rôle à jouer, puis vous avez sûrement un rôle que vous jouez dans la société. Un rôle beaucoup plus fondamental que vous êtes appelé à jouer. Et celui d'avoir du discernement. Pas parce que vous êtes des experts, mais parce que vous avez cru en Jésus-Christ, vous avez reçu l'Esprit de Dieu en vous et vous êtes appelé maintenant à faire preuve de discernement pour annoncer le véritable Évangile. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu, s'est incarné, est devenu Jésus de Nazareth. Pleinement Dieu, pleinement homme, seul sauveur pour tous les hommes. À celui qui croit en lui, c'est possible d'arrêter d'être dans les ténèbres, de marcher loin de Dieu et de commencer à marcher dans la lumière. Parce que j'ai été pardonné pour mes péchés, puis maintenant, par la puissance de l'Esprit, je livre un combat sans fin aux péchés qui veulent revenir dans ma vie. Puis j'apprends à marcher humblement avec lui. C'est glorieux, n'est-ce pas? C'est l'Évangile qui nous a été donné d'annoncer. On va prier ensemble. Père éternel, nous voulons t'adorer ce matin. On veut élever ton Saint-Nom parce que tu es Dieu, parce que tu t'es fait connaître à nous par ta parole, à travers le témoignage de chrétiens qui sont demeurés fidèles aux Saintes Écritures, qui n'ont pas erré en commençant à croire toutes sortes de choses, mais qui ont enseigné avec vérité, avec simplicité, le salut en Jésus-Christ, la Sainte Trinité. Notre état d'homme pécheur est perdu et la possibilité d'être entièrement gracié et sauvé, Seigneur. Père, on vit à une époque où la culture nous dit que dans ce domaine-là, il n'y a pas de vérité. C'est profondément contre-culturel ce que tu nous demandes d'apporter comme message, Seigneur, mais nous avons connu Jésus-Christ. Nous avons connu l'amour. Mais Seigneur, nous avons reconnu qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie, ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Nous avons reconnu que tu es Dieu fait homme, que tu es mort sur la croix pour sauver les hommes de la perdition. Nous avons cru que tu es ressuscité d'entre les morts, que tu sièges maintenant à la droite du Père et que tu intercèdes en notre faveur, Seigneur. C'est le message que nous voulons proclamer jour après jour. Aide-nous, Seigneur, à accepter qu'il y a un discernement à voir pour examiner les enseignements qui sont apportés, ici mais ailleurs, Seigneur, et ce que nous rencontrons, pour enseigner la vérité, Seigneur, à nos enfants, à nos amis, à nos voisins. À le faire avec humilité, Seigneur, sans prétention, simplement en ouvrant ta parole puis en exposant ta parole, Seigneur. Et enfin, Seigneur Jésus, ce matin, nous voulons t'adorer parce que nous croyons que tu es Jésus le Christ, venu en chair, envoyé par Dieu le Père. C'est en son nom que nous t'adorons, que nous te prions. Amen. Amen.